Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne, Sabine Marin.
Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de Libre Antenne sur Europe 1. Soirée de confidences, de partage, d'échanges, soirée de mots, de silence et de réflexion. Soirées uniques, chaque fois recommencées parce que vous êtes unique et que chaque personne qui appelle pour se raconter a une histoire unique. Et pourtant, vous le savez, à travers chaque histoire, nous retrouvons souvent un petit bout de la nôtre ou de celle d'un proche. Rapport compliqué en famille, rapport houleux au travail, maladie, deuil, addiction, traumatisme, maltraitance, insomnie, dépression, infertilité, stress, comportement répétitif. Nous sommes là, souvent mis à rude épreuve dans notre quotidien. Alors venez me parler de tout ça, abordons ici tous les sujets qui vous concernent, tout ce qui fait votre vie, votre quotidien. Pour me rejoindre sur cette libre antenne, un seul numéro de téléphone à composer, le 3921. Estelle et Maxime sont prêts à vous accueillir au standard d'Europe 1. Pour ceux qui préfèrent participer par SMS, donner un avis, un soutien, simplement demander aussi une mise en relation avec quelqu'un, vous faites le 739-21 en commençant bien par le mot nuit. Et puis je vous rappelle notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. La Libre Antenne est une grande famille dont tous les membres sont tous différents et c'est ça qui fait sa force. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h du matin et le chef d'orchestre de cette soirée, c'est Fabrice Fougerose.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question du jour pour mieux vous connaître, si vous avez envie de jouer le jeu, de me répondre par SMS, vous tapez 739-21 en commençant par le mot nuit. Vous pouvez aussi me répondre par mail. La question est, avec quelle personnalité aimeriez-vous aller prendre un café? Chanteur, acteur, écrivain, avec quelle personnalité aimeriez-vous aller prendre un café? J'attends vos réponses.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Mathieu. Bonsoir à vous, Mathieu.
Bonsoir.
Bienvenue sur cette petite antenne. Je vous écoute.
Merci. Mais je vais vous appeler pour raconter une petite partie de ma vie. Donc, j'ai 28 ans. J'ai repris donc mes études à 25 ans. Avant, j'étais ambulancier au SMUR. Et donc, j'ai vu un certain nombre de patients, souvent des patients âgés. Et donc, il m'arrivait très souvent de parler avec eux, d'avoir. Et souvent, j'avais un petit retour sur l'expérience de vie. Donc, chaque fois, j'avais quelques anecdotes, etc., etc. Et donc, ce qui en ressortait à chaque fois, c'était effectivement, ces gens-là n'avaient pas de regrets, mais s'ils avaient des choses à refaire, il y a des choses qui referaient à chaque fois autrement, il y a des choses qu'ils regrettaient de ne pas avoir fait quand même si au bout du compte, ils n'avaient pas de regrets. Et donc, entre mes 18 et 23 ans, j'étais ambulancier, mais en même temps, je faisais ce métier un petit peu par défaut. Je m'en contentais. Je suis resté en couple pendant cette période-là. Donc, j'étais un petit peu dans une période où j'étais un petit peu dépendant de manière affective, ce qui fait que le travail n'était pas une priorité ou moi-même, je n'étais pas forcément une priorité.
Que je comprenne bien le cheminement. Quand vous dites que je suis arrivée à ce métier un peu par défaut, par dépit, comment est-ce qu'on arrive à faire ce métier comme ça? Il y a une formation quand même à l'origine? Comment ça se prépare?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'étais pompier depuis 16 ans.
D'accord.
J'étais pompier volontaire, donc forcément, je suis arrivé là-dedans. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'état d'ambulancier, c'est l'équivalent d'être soignant en termes de formation, enfin, en termes de ce qu'on voit, en tout cas en cours. Ensuite, il y a une formation supplémentaire pour travailler au SMUR. Donc, au SMUR, c'est le, c'est le SAMU, hein, c'est l'équipe médicale.
D'accord, mais vous étiez déjà dans cet état d'esprit des pompiers, dans cet univers-là.
Oui, oui, voilà. Oui, j'étais déjà quand même dans cet univers-là. Mais donc, juste après le bac, effectivement, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdu. Puis j'étais déjà un petit peu en couple, donc je me suis engagé dans le travail directement, sans forcément penser à moi, sans forcément penser aux études. Et donc voilà.
Vous étiez sur des rails, mais pas forcément ceux que vous vouliez.
Exactement, c'était ça. J'étais sur des rails et pas forcément sur ce que je voulais. Et c'est en échangeant forcément à chaque fois avec les patients où je me disais mais en fait, je suis en train de faire ma vie un petit peu de manière automatique parce que je suis en couple. Mais en fait, être en couple, c'est pas du tout penser à soi. Enfin, en tout cas, si on peut, mais on peut être en couple et en même temps penser à soi. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. J'étais un petit peu dépendant, effectivement. Et donc, du coup, j'ai plaqué un petit peu tout ça et je me suis recentré sur moi-même, sur ce que je voulais. Sur ce que je voulais faire réellement dans ma vie. Et puis, dans mon métier d'ambulancier, malheureusement, je m'ennuyais parce que je voulais aller plus loin, parce que, justement, les diagnostics, c'était pas à nous de les faire, parce qu'on faisait des choses qui étaient banales, et puis je voulais aller plus loin, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs en tant qu'ambulancier ? Jusqu'où on va ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
Donc, déjà, c'est en fonction de l'équipe médicale avec laquelle on travaille. Les missions sont déjà d'acheminer l'équipe médicale en toute sécurité entre l'hôpital et le lieu d'intervention, et ensuite d'acheminer en toute sécurité et aussi en fonction de l'état pathologique du patient, de son lieu de domicile ou du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital sur lequel il doit être acheminé.
D'accord.
Sur place, on peut aider, il faut forcément aider l'infirmière à préparer le matériel. Par exemple, sur un arrêt cardiaque, l'infirmière prépare les drogues que le médecin lui demande de préparer, le médecin doit intuber. Donc lui, l'ambulancier, il doit préparer le scope, il doit préparer le défibrillateur, il doit même mettre d'ailleurs tous les patchs pour... Il y a un certain nombre de patchs à mettre sur la poitrine du patient pour. Il y a quand même tout un tas de choses à faire quand même, et on ne s'ennuie pas en général, chacun est occupé, hein, on ne reste pas. Mais moi, c'est intellectuellement, ça ne m'allait pas. C'était comme l'infirmier, j'exécute et puis on ne demandait pas de réfléchir, sauf qu'à un moment donné, au bout de 4-5 ans, on commence un petit peu à réfléchir, il y a des étapes pathologiques sur lesquelles on s'intéresse un peu plus et on veut aller plus loin. Et puis voilà, les autres médecins me disaient, mais reprends tes études, ce médecin, pour moi ça me paraissait complètement surréaliste de faire médecin, je mets de la vie, je ne vais pas faire médecin, enfin, c'est pas pour moi... dur. Enfin, et donc, quand j'ai 18 ans, effectivement, c'est ce que je voulais faire, hein, à la base, un médecin.
Ah oui,
et avant, on n'avait pas toute la documentation sur Internet comme maintenant. Dans les années 2009-2010, on allait au centre de documentation et d'information. Il y avait la fiche métier sur les catalogues de l'ONICEP. Et puis, ce qu'ils nous racontaient sur les études de médecine, c'était quand même... très différent de ce que du coup j'ai pu connaître, parce que du coup j'ai arrêté ambulancier et puis ensuite je me suis recentré sur moi-même, je suis séparé aussi, j'ai tout plaqué pour le coup, et je me suis recentré sur moi-même et du coup j'ai repris les études.
Alors comment ça fonctionne pour raccrocher les wagons ? Il y a un concours d'entrée ? Comment ça marche ?
Alors, moi, quand j'ai recommencé du coup les études, je suis tombé en plein dans les annonces d'Emmanuel Macron sur la réforme des études de médecine. Mmh. Et donc, je suis passé donc là, je suis en troisième année de licence, sciences pour la santé. Et donc, je passe par cette licence pour faire la passerelle médecine. Donc,
d'accord.
C'est ce qu'on appelait avant l'alter passes. Et maintenant, c'est ce qui va être généralisé, donc ça portera plus ce nom-là. Donc, je fais partie de la dernière génération à pouvoir bénéficier de cette passerelle. En fait.
Mmh.
Voilà. Et donc, du coup, je suis presque au but. Donc, là, ça y est, je suis en troisième année, donc sciences pour la santé. Mes cours me plaisent énormément parce qu'on commence déjà à faire des électrocardiogrammes. On commence déjà à savoir un petit peu les décrypter, même si c'est minime, mais on commence à faire des choses qui sont très ressemblantes à ce qu'ils font en médecine. Donc, du coup, c'est très intéressant. Et en même temps, mais j'étais un petit peu dans un état d'esprit en ce moment où hier vous avez dit il y a les feuilles qui tombent des arbres en ce moment. Et souvent on a du mal à décrocher, on a du mal à décrocher de nos objectifs, on a du mal à décrocher de
pas à décrocher, c'était à lâcher.
À lâcher
prise,
exactement.
J'ai suffisamment confiance à la vie pour lâcher et laisser venir ce qui vient après.
Exactement. Et moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Parce que du coup, je me suis tellement fixé cet objectif de médecin que si je n'y arrive pas, je me dis, je ne sais absolument pas, mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire d'autre. Enfin, j'ai cette impression où si ce, donc, bon, ça sera un échec, bon, ce sera un échec, au moins j'aurais tenté. Le jour où je serai sur mon lit de mort, je pourrais dire que j'aurais tout fait pour y arriver et que,
exactement. Voilà.
Mais du coup, si je n'y arrive pas, j'ai l'impression de me dire, mais il va falloir que je fasse un deuil. Comme si, je sais pas, comme si j'avais perdu quelque chose, donc je profiterai de la vie, soit, mais avec une frustration. Alors, je discutais avec une professeure il y a pas longtemps, justement, son mari était médecin et elle, du coup, a été chercheuse. Bon, la pauvre, elle a dû le suivre dans la ville où je suis, et bon, elle a suivi parce que, et du coup elle se retrouvait prof, elle a fait de l'administratif, elle a fait de l'enseignement, mais à la base c'est pas ce qu'elle voulait faire, et ça m'a fait peur, quoi. Je me suis dit, mais j'ai absolument pas envie de me retrouver comme cette prof qui fait quelque chose qui lui plaît pas. Elle attend la retraite, elle vivote à côté, mais finalement dans la vie elle a pas fait ce qu'elle aurait voulu faire, quoi, finalement. Et ça du coup ça me fait super peur. Donc en ce moment je suis entre le travail à fond, mais pas un moment, et dans la journée je suis souvent bloqué dans, je suis un peu dans un espèce d'immobilisme. Je me mets tellement la pression, il y a tellement de, c'est tellement comme une épée Damoclès sur ma tête, que j'ai des blocages. Je travaille, mais je travaille pas suffisamment comme je voudrais. Bon, c'est surtout ça, en fait. Je travaille pas suffisamment comme je le voudrais. Il y a des moments où je fais pas ce que je devrais faire. J'y consacre pas assez de temps. Et donc, du coup, en ce moment, ça me stresse pas mal du tout. Et c'est l'après qui me fait peur, en fait. Je suis sur l'après, je suis pas sur le moment. Moi, dans ma tête, je suis déjà dans l'après, dans l'optique de l'échec.
Et là, quand je vous écoute, je pense à cette citation que j'aime beaucoup. Qu'ils sont lourds, les fardeaux que nous ne porterons jamais.
Oui, bah oui. Hein? Mais oui, mais moi, c'est ma nature, hein. Anticiper. Toujours tout anticiper.
Ah non, ça ne s'appelle pas anticiper. Ça, parce que vous pourriez anticiper dans le bon sens.
Oui, bah, je pourrais anticiper dans le bon sens, c'est vrai.
Ce que vous faites, c'est que vous laissez parler le petit saboteur interne. Vous savez, le petit mec interne qui remonte ses manches en disant « Tu vas voir, tiens, tu n'y arriveras jamais, t'es nul. T'as pas de chance, c'est trop bien pour toi. » Tout cette petite voix intérieure, là, c'est ça, c'est cette voix-là que vous laissez parler. C'est pas anticiper, ça, parce qu'anticiper, ça pourrait être parfaitement de l'anticipation positive et ce serait très bien.
Oui, il peut y avoir aussi une part de réalité, enfin, où on essaye de prévoir le risque. Et risque est quand même présent.
Vous pourriez demain matin vous faire écraser par un camion, hein?
Oui. Non, mais oui, non, mais après, effectivement, et ensuite, il y a des choses de la vie à laquelle on peut se raccrocher.
Mais attendez, quand j'écoute ce que vous me dites là, Mathieu, vous avez eu le cran d'arrêter de vous, déjà si jeune, d'avoir la réflexion, la maturité nécessaire pour vous dire, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, je ne suis pas sur les bons rails. Je n'ai pas envie de me retrouver un jour à 50, 60, 70 ans et de me retourner en me disant, zut, j'aurais dû. Vous avez cette maturité-là, cette intelligence-là, vous arrêtez tout, vous reprenez vos études, vous mettez tout en place, vous êtes sur le bon chemin maintenant.
Ah oui, et du coup, j'ai des blocages. J'ai des blocages et la peur de l'éventualité de l'échec fait que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire si j'échoue? Qu'est-ce que je vais faire? Et enfin, ma vie sans me fait peur, quoi, en fait. Je me dis, mais
alors,
c'est pas ce que je vais faire.
Il y a des petites choses à chercher là-dedans. Est-ce que vous avez un problème de légitimité? Est-ce que vous vous sentez légitime dans ce que vous êtes en train d'apprendre?
Ah oui, totalement. Non, mais je me sens totalement à ma place. Hein. Non, mais complètement. Je suis à fond. J'adore ça. Je participe très souvent. Je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur parce que pas bien de dire qu'on est le meilleur, mais je fais partie de ceux qui expliquent aux autres normalement, enfin généralement.
D'accord. Fabrice me fait un petit signe en régie. On marque une courte pause, si vous le permettez. Ouais. Je vous pose quelques questions ensuite et on va poursuivre notre conversation. Mathieu, à tout de suite.
D'accord.
Mathieu, vous êtes là.
Je suis là.
Alors, la légitimité, c'est OK. Deuxième chose, est-ce que vous êtes soutenu par votre famille dans cette reconversion? Ce n'est pas une reconversion, mais presque, en tout cas dans ce nouveau chemin.
Alors, par la famille, non. J'ai un compagnon avec qui ça se passe bien, qui me soutient totalement. Donc là-dessus, là-dessus, j'ai pas véritablement de... de problème. Après, c'est vrai que je suis du coup très seul, très isolé. Enfin, je suis nature optimiste ou joyeux, donc je parle avec les gens en général. On dirait que je pourrais m'intégrer avec des grenouilles, souvent on dit de moi. Mais autrement, je suis très seul. Bon, ouais, je suis très seul autrement. Parce que je révise, parce que je reste chez moi, je m'isole. Parce que j'ai pas nécessairement envie de sortir ou tout simplement, quoi.
Mais vous me dites que vous n'êtes pas soutenu par votre famille?
Ça a toujours été compliqué, les relations avec la famille. Ils comprennent. J'ai des parents qui comprennent pas, qui n'ont pas forcément un niveau d'instruction très élevé. Ils n'ont pas nécessairement tout compris encore de ce que je faisais. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué de leur en parler. Donc, je leur parle de ce que je fais, mais pour eux, ça, ils comprennent pas tout, quoi. Voilà. Je suis issu d'une famille qui n'a jamais été proche de moi. Hein. Donc ça, pour le coup, comme je dis souvent, je dois beaucoup à l'école, au collège, au lycée. Enfin.
Moi, j'ai l'impression que vous devez beaucoup à vous-même, surtout. Hein.
Bah oui, ça, c'est peut-être de la chance. c'est peut-être de la chance tout court. Hein. Parce que j'aurais pu terminer autrement, mais je pense que c'est de la chance, c'est le facteur chance. Hein.
Vous pourriez être un peu fier de vous aussi ?
Comment ?
Vous pourriez être un peu fier de vous aussi ?
Ah oui, sur ça j'ai pas de ça j'ai pas de problème. Si je fais quand même un petit feedback, je peux me dire bon ça va quand même, j'en suis plutôt bien sorti. Bon. Mais il n'empêche que en ce moment je suis hyper stressé et ce qui me dérange c'est que du coup j'ai cet état un peu de paralysie où il y a des journées où du coup j'ai l'impression d'avoir un gros poids sur les épaules, d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, je suis stressé. Donc, j'ai été voir le médecin, là, par exemple, le lundi. Il était 10h, j'étais à 132 pouls. J'ai perdu la moitié de ma moustache. Voilà. J'ai des gros trous partout dans la barbe, tellement je stresse. Mmh. En ce moment, il y a les masques. Donc, on voit pas les gros trous à travers ma belle. J'ai une belle barbe, mais là, j'ai des gros trous partout dedans, tellement je suis stressé en ce moment. Et ouais, c'est en train de me mettre dans un état où je devrais travailler, où je devrais être à fond. Et au final, je suis en mode je suis pas à fond, quoi. Justement, j'ai une espèce de blocage.
Ok.
Je sais pas.
Alors, plusieurs choses. On va travailler un petit peu en visualisation avec vous, ça peut être intéressant. La première chose, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, vous savez mieux que personne qu'on va toujours là où on regarde. Et vous savez que sur la route, s'il y a un accident, le plus dangereux pour ceux qui viennent aider, c'est que le conducteur qui arrive derrière, s'il regarde l'accident, il y va direct. Mmh. Ça vous parle, ça ?
Oui.
Vous savez, quand on dit toujours de faire extrêmement attention, quand on focalise son regard sur quelque chose, on a tendance à prendre cette direction.
Mmh.
Donc, s'inquiéter, c'est passer beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'énergie à se focaliser sur quelque chose qu'on ne veut pas.
Donc, c'est un peu ça.
Ah, c'est même complètement ça. Et dès que vous sentez que vous vous angoissez et qu'il y a c'est ce que j'appelle vraiment le petit saboteur interne à qui il revient, vous pouvez réapprendre, ou apprendre en tout cas, à diriger vos pensées. À vous dire, attention, ma pensée, là, elle va vers là où je ne veux pas aller. Et donc, si je ne veux pas y aller, c'est à moi de choisir où je veux aller. Personne ne viendra vous taper sur l'épaule en vous disant, attention, tu n'es pas dans la bonne direction, là. C'est à vous de le faire, ça. Et ça, ça se fait comment ? Ça se fait avec de la méditation, ça se fait avec de l'auto-hypnose. Apprendre, réapprendre à vous approprier vos pensées et à les diriger vers là où vous voulez aller, parce qu'on va toujours vers ce à quoi on pense.
Oui.
Donc, c'est
un cheminement...
Ouais.
Qui me paraît. Oui, non, mais bien entendu, il faut des efforts hein, pour ça, faut mettre en place des.
C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement, mais croyez-moi, quand on l'a intégré, ça change la vie.
Hein. Mais il faut le faire. La méditation, c'est vrai que j'ai commencé à en faire, mais je ne me tiens pas. Je vais être mentalement foutiste, je ne sais pas, mais.
Moi, je vous conseillerais plutôt d'apprendre à faire de l'auto-hypnose, soit avec des bouquins, soit avec une formation. Dans quelle région êtes-vous ?
Je suis en Normandie. Dans ma résidence, j'ai une psychothérapeute. J'ai tout juste à côté de. À moins de 100 mètres de chez moi.
C'est pas elle qui va vous apprendre l'auto-hypnose.
Hein. Je sais pas du tout. Peut-être des gens en hypnose, oui, en hypnothérapie, oui.
Alors, soit un hypnothérapeute qui vous enseigne ça dans son cabinet, soit des écoles qui proposent des stages sur des week-ends, comme ça, vous pouvez apprendre à gérer justement vos pensées, vos émotions. Je vous conseille aussi un très chouette livre de Deepak Chopra. Je ne sais pas si vous connaissez Deepak Chopra, c'est un Indien.
Ça me dit rien.
Deepak, D2EPAK. Et Chopra, C-H-O-P-R-A, qui s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès.
D'accord. Le titre me dit quelque chose.
Le titre, pour moi, n'est pas génial, parce que ce n'est pas un truc mystique. Quand spirituel, ça me gêne un peu dans le titre. C'est vraiment très pratique. C'est vraiment bourré de conseils pratiques. Et ça vous ferait, les sept lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, ça vous ferait du bien aussi de lire ça.
Ça va, je suis lecteur.
J'imagine.
Sur ça, il n'y a pas de problème.
Et vraiment, l'auto-hypnose est un outil qui vous permettra aussi de gérer ces angoisses quand elles arrivent. De prendre. Vous avez une image tout à l'heure que vous m'avez parlé de ça. Non, vous m'avez dit que ça fait comment quand ça commence à dérailler chez vous.
C'est pas que je stresse, c'est que je procrastine. Je procrastine, je fais autre chose. Quand c'est comme ça, du coup, je vais me focaliser sur un jeu, je vais pas vouloir travailler. Je sais qu'il faut que j'y aille, mais.
Vous n'avez pas parlé d'angoisse tout à l'heure ? J'avais l'impression que vous
aviez Non, je suis stressée, ça c'est sûr, je suis stressée.
Oui. C'est la première
étape. Que je ressens physiquement, en fait. C'est dire, dans ma nature, je suis pas de nature. Je suis pas de nature stressée. Là, quand on me voit, même en étant stressée, je suis quelqu'un de souriant, plutôt d'optimiste. Et le stress, c'est plutôt, chez moi, c'est quelque chose qui est physique. Quoi. Ça va être le mal au ventre, ça va être la perte de la barbe, ça va être les nausées, le vomissement. Alors, ça c'est typique, hein. Nausées, vomissements, mal au ventre, voilà. Ça va vraiment se traduire physiquement. Je sais que je vais être stressé parce que j'ai des symptômes physiquement, mais en moi, je ne ressens pas nécessairement de l'angoisse ou du stress ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce côté plutôt je procrastine ou plutôt je me change les pensées. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que je me change les pensées en jouant quelque chose, en lisant quelque chose aussi, mais qui n'a absolument pas à voir avec mes cours, ou alors si, ça a à voir avec mes cours, mais ce n'est pas la priorité. Mmh. Alors ça aussi, du coup, il y a ce côté bazar dans ma tête.
C'est une fuite.
Ouais, ça y ressemble. Hein. Mmh. Mais oui, ça y ressemble.
Mmh. Alors pour gérer ce stress, il y a un très bel outil aussi qui s'appelle l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ça ne me parle pas.
Emotional Freedom Technique. Allez vous renseigner là-dessus, soit pour le faire avec un thérapeute, soit pour apprendre à le faire, parce que même dans votre pratique, ça vous servira plus tard.
D'accord.
C'est extrêmement efficace. EFT.
Ça, je retiens. Et le.
C'est un système où on tapote sur les méridiens pour se débarrasser de stress, de douleur, de tas de choses qui nous empoisonnent la vie. Et c'est vraiment assez efficace et assez rapide, surtout. C'est ça l'intérêt de l'EFT. Vous pourriez apprendre ça pour vous-même et pour les autres. C'est vraiment très intéressant. Et puis, travailler sur la visualisation. Quand vous avez des moments plus compliqués où vous dites « Mais mon Dieu, si je n'y arrive pas, qu'est-ce que je ferai de ma vie? C'est la fin du monde, je suis pas capable de faire autre chose. » Poussez ça comme si vous passiez un grand coup de balai dans vos pensées et focalisez-vous sur la réussite de votre examen et de votre carrière à venir. Projetez-vous déjà mentalement. Je suis médecin. Est-ce qu'il y a une spécialité, par exemple, qui vous attire plus qu'une autre?
Ah oui, bah c'est la suite de ce que je faisais. J'en étais médecin urgentiste. Ce sera la même chose. Il y en a une qui était courageux pour faire urgentiste parce que les conditions aux urgences ou aux caisses c'est pas génial. Mais voilà, moi personnellement, c'est ce qui me plaît le plus. Là où je suis plus efficace, et plus c'est le bordel, plus ce sera la pagaille. Et plus je vais avoir l'esprit rapide, fluide et assez clairvoyant.
C'est très intéressant ce que vous dites là. Ça veut dire que quand il y a du stress, vous savez aussi le transformer en stress positif.
Oui, je sais faire.
Il n'y a pas de stress positif ou négatif. Il y a un stress qui nous pousse en avant ou qui nous tire en arrière. Celui qui vous gêne, il vous tire en arrière. Donc transformez-le pour qu'il vous pousse en avant. Vous savez le faire.
Oui, bah avec ce que vous m'avez cité, effectivement, peut-être que je me renseigne sur quelques pratiques pour justement essayer de transformer ça, effectivement, et éviter d'être bloqué comme je le fais en ce moment et m'éparpiller partout comme je le fais et vraiment me focaliser sur les points importants de mes cours et éviter de m'éparpiller, là, d'essayer de prendre la fuite comme je le fais de manière un peu inconsciente. Mmh. Enfin, comment dans la tête hein, de se tenir, de se dire bon, maintenant, hop, au travail, c'est tel truc à voir, c'est pas autre chose.
Je préférais que ce soit un apprentissage plutôt qu'un combat, parce que dans un combat, il y a toujours quelqu'un qui perd.
Oui, je sais pas.
Mais pour en revenir au stress, moi, quand j'ai une petite poussée de stress, quand j'ai un rendez-vous important, un projet, quelque chose, Je me visualise toujours ça en me disant, voilà, il y a un stress qui peut être positif, qui me pousserait en avant, et celui que je ressens là, il n'est pas bon, il est négatif, il me tire en arrière. Et donc, je transforme dans ma tête ces bras qui me tirent en arrière vers des bras qui me poussent en avant, simplement.
Oui, ouais, je pense que c'est... Oui, il faut s'entraîner, il faut réussir à... Faut que j'essaye là. Mais rapidement, avant que ça commence à me jouer des tours, hein, parce que mine de rien, je commence à avoir des contrôles très rapidement et j'aimerais ne pas m'éparpiller encore plus que ce que je fais et que ça me porte préjudice.
Alors attention, là, attention, tout se joue, quoi. Écoutez bien ce que vous venez de dire. J'aimerais ne pas m'éparpiller. Vous regardez vers là où vous ne voulez pas aller.
Ouais.
Je choisis d'être concentré et de réussir.
Ouais, oui, c'est ma personnalité. Ça.
Commencez par bannir toutes les formules négatives. Et croyez-moi, quand vous serez urgentiste, par pitié, apprenez à parler de manière positive aux gens. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'écoute quand j'ai expliqué ça plein de fois, mais je le redirai autant de fois qu'il faudra. Notre cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à une Ferrari rouge, la première image mentale que vous fabriquez, c'est la Ferrari rouge. Si vous dites à quelqu'un qui vient d'avoir un accident, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas en danger, ça fera pas mal. Il entend peur, danger et mal. Notre cerveau ne peut pas traiter la négation. Il va immédiatement construire l'image mentale du mot qu'il entend.
Ah oui, c'était... Sur ça, ça allait. J'aurais pas de travail à faire en général. Mes mots, c'était « ça va aller, vous inquiétez pas, on va vous sortir de là ». Et j'ai expliqué ce qui allait se passer.
Mathieu, ça va aller. Non, je suis désolée, ça va aller, vous inquiétez pas. Il y a inquiété. Ça va aller quand ? Non, c'est ça va, c'est maintenant.
Oui, c'est vrai. Non, et comme quoi, il y a quand même ce côté un peu négatif toujours.
Et oui, parce qu'il faut apprendre ça.
Oui.
Et quand vous me dites je ne veux pas m'éparpiller, c'est la même chose. C'est une formule négative que votre esprit va convertir en image d'éparpillement et vous allez y aller direct.
Oui. Oui, c'est vrai.
Ça s'appelle de la PNL, si ça vous intéresse. C'est de la programmation neurolinguistique. Et ça aussi, c'est passionnant et c'est extrêmement efficace.
Ben oui, effectivement. Parce que si on peut inconsciemment être dicté par notre façon de parler ou notre façon de penser, et si on est inconsciemment aiguillé sur un état d'esprit avec une façon de penser, effectivement, c'est...
Je vous ai conseillé le livre de Deepak Chopra sur le succès. Il y en a un autre de lui qui s'appelle Les fabuleux pouvoirs de notre cerveau. Là, vous allez vous régaler aussi avec ça.
Oui, mais cela me parle, effectivement. Celui-là me parle déjà. Il faut que je regarde tout ça en effet. Là, il faut que j'essaie d'essayer de me reconcentrer.
Alors, je vais vous embêter encore, hein, mais quand on essaie, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc, vous n'allez pas essayer, vous allez le faire.
Mais quand je dis essayer, je le fais en général. Ça, sur ça, ça va.
Bon, super.
Eh bien, c'était tout pour moi. C'est léger, hein, c'est rien.
Oui, mais ça permet de faire des petits recadrages et de donner des petits conseils aussi à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est toujours intéressant.
Bon.
Prenez soin de vous et des autres, Mathieu.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup et bon courage, bonne nuit à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, ma question du soir était, avec quelle personnalité aimeriez-vous aller prendre un café ? Vous avez été très nombreux à me répondre et continuez d'ailleurs. Je partage les réponses avec vous. Alors, Aurore nous dit avec Victor Hugo. Laure aimerait aller prendre un café avec Carla Bruni. Alice nous dit sans hésiter, ce serait Madame Macron. Qu'est-ce que j'ai encore ? Marie, une autre Marie qui nous dit « J'aimerais beaucoup passer une soirée avec Enrico Macias ». Brigitte, elle, adorait aller boire un café avec Gérard Depardieu. Josette rêve de rencontrer Luc Ferry. Anita aimerait bien passer un petit moment avec Laurent Gérard. Et puis je fais un clin d'œil à tous ceux qui ont répondu avec moi. Je vous embrasse. Et c'est Valentin que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Valentin.
Oui, bonsoir.
C'est la soirée des jeunes hommes ce soir, des jeunes hommes. Je vous écoute.
Oui. En fait, c'est un peu compliqué pour moi.
Ouais.
J'ai 26 ans.
26, c'est ça ?
Oui, 26. Oui, ouais. J'ai 26 ans. Et je suis un peu complètement... je me sens un peu perdu, complètement... je me sens pas bien, en fait. Je me sens pas bien dans ma peau et... Je ressens en fait un mal-être depuis pas mal de temps, en fait, maintenant. En fait, j'ai l'impression de pas avoir de pas avoir d'issue, en fait, de pas avoir de. À chaque fois quand ça va bien, en fait, à chaque fois, il y a un moment donné où ça revient. En fait, c'est comme quelque chose qui est là au fond de moi, quelque chose qui est sans arrêt, en fait, retoque, je sais pas, de manière un petit peu inconsciente, je pense.
Comme si vous ne méritiez pas d'être heureux.
Oui. Oui, il y a quelque chose comme ça, je sais pas, j'ai l'impression de. J'ai vécu pas mal de choses, en fait, depuis plusieurs années, depuis petit, en fait, je suis née prématurée.
À quel mois êtes-vous née?
Je suis née à 7 mois à peu près, je suis considérée comme grand prématurée.
Oui.
Et en fait, j'ai toujours été un peu. Comment dire, enfin, mes parents, je pense, sont toujours un peu inquiétés pour moi. Et m'ont beaucoup protégé, enfin, m'ont beaucoup surprotégé un petit peu aussi au niveau de la santé. Enfin,
parce que ce qui se comprend quand on a vécu une angoisse pareille avec un enfant préma, c'est toujours le cas. Mais ça veut dire que vous avez été biberonné à l'angoisse, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, pas forcément, parce que j'imagine que pour papa et maman, quand on a failli perdre un bébé comme ça. On en fait trop, bien sûr, derrière. Et même si ça part d'un bon sentiment, ça laisse des traces, quoi.
Ben c'est ça, oui. C'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis, des difficultés en général, un petit peu. Voilà, enfin, j'ai eu un petit peu des traumatismes aussi dans l'enfance, dans le sens où je suis restée coincée sous l'eau. À un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir.
À quel âge?
J'ai décédé par un maître nageur. J'étais au lycée, pas au lycée, en école primaire, en classe de CE2, CM1.
Oui.
J'ai eu cette période-là. Il y a eu un moment donné aussi où j'ai vu aussi à la même piscine, en fait, une mort par électrocution. Donc, d'un monsieur qui a perdu la vie, comme ça, en sautant dans l'eau, en fait, en faisant le chaud et le froid. Enfin, je ne sais plus exactement, mais. Ces deux éléments-là qui m'ont pas mal marqué.
C'est intéressant. On y reviendra peut-être tout à l'heure, parce que moi, l'image immédiatement que j'ai en tête, c'est que ça me ramène à la gestation dans le ventre de maman. Vous n'avez pas voulu rester à l'intérieur non plus, dans l'eau.
Oui, peut-être que.
Il y aura peut-être un travail à faire là-dessus. On en parlera. Je vous écoute pour la suite de cette histoire.
Donc voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça, en fait. À l'école primaire, voilà, j'ai perdu mon grand-père aussi en sixième, juste avant d'entrer en sixième, j'avais un cancer de la vessie. J'ai culpabilisé longtemps parce que, en fait, j'avais préféré aller à la fête foraine du quartier plutôt que d'aller le voir à l'hôpital une dernière fois, enfin, en pensant qu'il était encore bien, je ne le savais pas, j'avais peut-être 12 ans à l'époque, ou 12 ans. Et en fait, derrière, j'ai eu à la suite de ça une crainte de. En fait, j'avais peur de me jeter par la fenêtre. Je me disais que c'est ce que peut-être que je mériterais, en fait. Enfin, je culpabilisais intérieurement et je voulais presque mourir. Et j'étais très proche de lui, enfin, très proche de mes grands-parents. Et en fait, c'était très compliqué parce que je pense que c'est là que la dépression a un peu commencé. En fait, c'est la première fois vraiment que j'ai senti des symptômes vraiment de dépression.
Ça s'est manifesté comment chez vous, les premiers symptômes?
Ben, j'arrêtais pas de ruminer, enfin, je me sentais pas bien, enfin, j'avais des douleurs dans le dos, des pensées plein la tête, enfin, j'avais peur de m'approcher de la fenêtre de ma chambre, en plus j'étais en étage, donc du coup je le voyais vite souvent, enfin, je me disais que ça allait. Enfin, j'étais torturée, en fait. C'est une sorte de phobie d'impulsion que j'avais et je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas mourir, mais il y avait comme des pulsions
aussi, ça ressemble à des pulsions. Comme... Est-ce que vous avez vu un thérapeute pour travailler là-dessus?
Oui, j'ai vu. Alors, j'étais suivie pas mal de temps par un psychiatre.
Ouais.
Ils ont tous plus ou moins toujours dit que j'avais un problème, en fait, j'avais un souci d'attachement, c'est une relation exceptionnelle avec mes parents, encore maintenant, aujourd'hui, enfin, je suis toujours chez eux. Dans ma vie, un peu, c'est un peu le chaos, enfin, je suis un peu perdu, je Je pense que j'ai un sentiment d'insécurité intérieure, en fait, qui m'habite. Il y a des moments où ça va super bien, tout d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retoque, qui me dit, mais là, ça va pas, il y a quelque chose qui... Enfin, non, ça va pas. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui comme si il y avait quelque chose qui se rappelait à moi, en fait, qui venait me freiner. Et j'ai le sentiment d'avoir des choses qui sont en moi. Je sais pas, je voudrais m'en libérer, me débloquer de ça. Je sais pas vraiment d'où provient exactement le blocage. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait intérieurement, au fond de moi. Enfin, pourquoi parce que si vous voulez, pour vous expliquer, en fait, j'ai l'impression qu'une fois par an, chaque fois, il y a toujours. J'ai l'impression d'avoir comme d'avoir une dépression chronique ou qui récidive. En fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui revient comme ça. Avec une pensée, une rumination, un fond d'inquiétude sur quelque chose, sur un sujet particulier, sur à un moment donné c'était l'orientation sexuelle, au lycée c'était au collège la peur de faire du mal à ses parents, j'avais peur aussi qu'il m'abandonne à un moment donné parce que le soir quand j'allais me coucher j'avais le sentiment que s'il n'y avait plus de bruit, s'il n'y avait plus rien, bah, qu'il allait partir et que j'allais me retrouver seule en fait, que j'allais être séparée, j'allais me retrouver seule en fait sans eux. La crainte de vomir aussi à un moment donné, un petit peu d'anorexie mentale à la suite des faits de mon grand-père.
C'est du contrôle tout ça, c'est un besoin de garder le contrôle.
Oui.
Surtout.
Oui, c'est ça, c'est encore un peu ça, je pense, aujourd'hui, maintenant.
Comment ils vont, vos parents?
Ben, mes parents, ils vont bien. Eux, ils sont bien. Enfin, j'ai un frère et une sœur qui j'ai l'impression qu'ils avancent, ils avancent dans la vie, et moi, j'ai l'impression de piétiner, de faire du surface. Alors, j'ai été jusqu'au bac, j'avais toujours eu des difficultés scolaires. Mes parents m'ont beaucoup soutenu, m'ont beaucoup aidé, accompagné pour que je puisse réussir. J'ai eu mon bac économique et social en 2012. Et voilà, en fait, l'entrée dans l'âge adulte et tout ça, c'était très compliqué. C'était très compliqué parce que je pense que j'ai fait pas mal d'évitements, pas mal de procrastination aussi. J'ai eu à un moment donné la crainte d'aller vers les autres aussi, parce que j'ai subi des moqueries en fait plus jeunes en école élémentaire, pas en école primaire, en école maternelle. Je me souviens d'avoir eu des moqueries parce que j'étais plus petit que les autres, jamais après maturité, tout ça.
Est-ce que vous en avez encore des séquelles aujourd'hui ou pas du tout?
Bah, peut-être que oui, peut-être je pense quelque part qu'il y a des choses comme ça. Voilà, j'ai souvenir aussi une fois où j'étais resté dans la voiture, je ne voyais pas mon père revenir et je me suis mis à hurler. Enfin, j'avais peut-être quoi, 5-6 ans, enfin, j'étais jeune, très jeune, mais j'avais ce sentiment-là. Après, comme peut-être tout enfant, a peur d'être abandonné par ses parents et de se retrouver un petit peu seul face à soi-même. En fait, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois me construire, je dois faire ma vie, je dois avancer, je dois. Voilà, j'ai plein d'envies, plein de choses, mais je n'ai pas du tout confiance en moi et je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire, quoi faire. J'ai l'impression d'être complètement bloqué, en fait.
Est-ce que vous avez l'impression de ne pas être prêt, finalement, pour tout ça?
Peut-être, oui. J'aimerais bien. Alors, j'ai le sentiment d'avoir évolué parce que j'ai pris mon autonomie, j'ai une voiture, j'ai fait quand même des études. Mais le problème, c'est que là, je sors d'un distanciement, donc je pense que c'est ce qui a précipité la dépression, comme le cas actuel. J'ai fait une formation dans l'infographie, dans le graphisme, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez sensible, qui est hyper émotif, qui est un peu rêveur, nostalgique, qui se raccroche beaucoup au passé par rapport aux choses que j'ai vécues. Enfin, je ressens beaucoup la sensibilité des jeunes, tout ça me touche. Je me réfugie un petit peu dans l'univers artistique, de la chanson, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore chanter, j'adore...
Est-ce que par hasard, vous vivez plus dans votre monde intérieur que dans le monde extérieur?
Oui, je pense que je fantasme plus ma vie que ce que j'arriverais, que ce que je voudrais en fait pouvoir faire.
Oui. Valentin, on va devoir laisser la place aux infos, si vous le voulez bien. On fait une petite pause.
Oui.
Et puis je vous récupère dans quelques minutes et on va poursuivre cette conversation et surtout essayer de trouver ensemble des pistes pour vous libérer de ce blocage, de ce gros nœud là qui vous empêche d'avancer régulièrement dans votre vie. D'accord?
Oui, je vous remercie, c'est gentil.
Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après les infos.
Oui.
Merci à vous, à tout à l'heure. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. C'est l'heure des infos avec Lénaïc Monnier.
Le Loiret est en zone rouge pour l'instant. C'est pas normal que l'on vive ça à l'heure actuelle.
Une aberration pour le maire de Nevoy après le rassemblement d'un millier de pasteurs sur sa commune avec l'aval de la préfecture, alors que le nombre de contaminations au Covid atteint un nouveau record ce soir. Nous verrons également dans ce journal que la manif pour tous a fait son retour un peu partout en France cet après-midi. Et puis retour sur l'exploit d'Iga Swiatek, la jeune joueuse polonaise de 19 ans, s'impose à Roland-Garros.
Europe 1.
C'est donc un nouveau record. Ce soir, près de 27 000 cas supplémentaires de Covid détectés. Le taux de positivité grimpe également à 11%. Dans ce contexte, on essaie de comprendre pourquoi un rassemblement de près d'un millier de pasteurs a pu se tenir aujourd'hui dans le Loiret. L'événement privé a été validé par la préfecture. Le président de l'association qui a organisé ce rassemblement assure que les gestes barrières ont été respectés. Mais pour le maire de la commune de Nevoy, c'est une aberration. Écoutez-le. Jean-François Darmois.
Recevoir 700 personnes sur notre commune, alors qu'on nous interdit une manifestation de 30 personnes dans des établissements publics, même légèrement festifs, on va dire. Et moi, je peine à le supporter. Alors, mes propos ne sont pas contre les gens du voyage, bien entendu. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là, on est dans une population qui, par définition, vient de toute la France et va repartir ce soir dans toute la France. On peut se poser des questions avec les règles sanitaires actuelles. Moi, je ne voudrais pas qu'on dise un jour, Nevoy, ça a été un deuxième foyer infectieux. Le Loiret est en zone rouge pour l'instant. Ce n'est pas normal que l'on vive ça à l'heure actuelle.
Le maire de Nevoy, Jean-François Darmois, au micro Europe 1 de Nicolas Fellmann. Depuis ce matin, par ailleurs, je vous rappelle que Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne sont en état d'alerte maximale. Les bars n'ont pas ouvert de la journée, les restaurants ont fermé à 22h. Et tout cela va durer au moins les 15 prochains jours. Nouveau rassemblement à travers toute la France des opposants à la PMA pour toutes les femmes. Mesure phare de la loi de bioéthique adoptée par l'Assemblée début août et qui sera examinée dans les prochains mois par le Sénat. Ils étaient plusieurs centaines, notamment à Toulouse, Rennes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, à l'appel du collectif Marchons Enfants. À Paris, c'est place Vendôme qu'ils se sont retrouvés devant le ministère de la Justice. Écoutez les revendications d'Albéric Dumont, c'est le vice-président de la Manif pour tous.
Il était important pour nous, dès la rentrée, dès que cela était possible pour nous de nous rassembler, de venir clamer notre opposition à ce texte, qui est un texte que nous considérons injuste et discriminatoire pour certains enfants. Le processus législatif est avancé, mais il reste encore de très nombreuses étapes. Les commissions mixtes paritaires, la séance publique au Sénat, le retour à l'Assemblée nationale, l'étude de la constitutionnalité du texte, son signature, sa promulgation, etc. Voilà, et la Manif pour tous et Marchons Enfants sera présente à chacun de ces étapes pour rappeler notre position jusqu'au retrait de ce texte.
Et témoignage recueilli par Damien Mestre pour Europe 1. Donald Trump sans masque ce soir au balcon de la Maison Blanche. Le président américain est venu dire qu'il allait bien et remercier ses partisans. 9 jours après son hospitalisation, le président a expliqué qu'il allait éradiquer ce virus chinois. C'est donc le retour d'un président offensif dans la campagne, mais aussi dans les meetings, puisque la semaine prochaine, il se rendra dans plusieurs états clés, la Floride, la Pennsylvanie et l'Iowa. La fraîcheur et la jeunesse d'Iga Swiatek, la jeune polonaise qui a remporté Roland-Garros cet après-midi. Elle a battu l'américaine Sofia Kenin, pourtant tête de série numéro 4. Le score 6-4-6-1. Victoire méritée, mais aussi prometteuse pour Amélie Mauresmo.
Incroyable. Elle a pris l'événement à bras-le-corps, comme elle l'a fait finalement à chaque match depuis le début du tournoi, pour imposer un style de jeu qui a posé pas mal de problèmes à son adversaire. Franchement, chapeau. Et puis, moi, j'ai le sentiment que... J'espère en tout cas que ça va être un visage qu'on va voir assez souvent et qu'elle va confirmer dans les semaines à venir, je ne sais pas, mais en tout cas dans les mois, les années qui vont venir, parce que j'ai l'impression qu'elle maîtrise vraiment très bien ce qu'elle fait. Je pense que la terre battue, c'est quand même aussi une surface qui lui est vraiment favorable. J'ai le sentiment qu'on va la revoir.
Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale au micro Europe 1 de Corinne Boulou. On jette un œil sur la météo. Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon, de nouveau au Maussade ce dimanche.
Et oui, et de l'Aquitaine au bassin parisien jusqu'aux Ardennes, le temps qui est instable et très pluvieux, le vent du nord qui accentue le ressenti bien froid, digne de novembre. Des Hauts-de-France à la Bretagne et Pays de la Loire, le risque d'averse faiblit progressivement et vous retrouvez d'assez belles éclaircies en bord de mer en toute fin de journée. Des Pyrénées aux Alpes en passant par la Bourgogne, la Franche-Comté, le Massif central, averse et neige en montagne dès 1200 mètres d'altitude. Soleil tout de même en Languedoc-Roussillon au prix d'une forte tramontane jusqu'à 90 km/h en rafale. En basse et moyenne vallée du Rhône et en Provence, le Mistral qui atteint 100 km/h. sur la côte d'Azur et en Corse. Retour des averses orageuses dans l'après-midi. Je vous donne la fourchette des températures le matin entre 3 Aurillac et 14 degrés à Nice. Et l'après-midi, des maximales qui baissent encore entre 9 à Saint-Étienne et 20 degrés à Montpellier.
La météo avec Valérie Darmon alors qu'il est minuit 6 pratiquement sur Europe 1. Bonne fin de soirée à tous avec la Libre Antenne et Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Pour accompagner votre soirée, nous sommes encore ensemble en direct jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, continuer à nous appeler. Vous faites le 3921, vous tomberez sur Estelle ou sur Maxime qui vous attendent au standard et qui sont prêts à vous guider jusqu'à moi. Si vous avez envie d'intervenir par SMS, donner votre point de vue, apporter un soutien ou demander d'être mis en relation avec quelqu'un, c'est facile. Vous faites le 73921 et vous commencez bien par le mot nuit. Enfin, je vous rappelle nos mails libreantenne@europe1.fr, libreantenne en un seul mot. @europe1.fr. Ce sont aussi les mails qui sont pratiques si vous souhaitez parler sur cette libre antenne et que vous n'êtes pas dispo, par exemple, ce soir. Vous avez envie de parler demain, le week-end prochain. Eh bien, tout simplement, vous nous envoyez un petit message, votre nom, votre numéro de téléphone et on vous rappellera le soir où vous aurez une disponibilité. Voilà, j'espère que vous avez tout bien noté.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1. Sabine Marin.
Et je retrouve Valentin. Vous êtes là, Valentin ?
Oui, je suis là.
Alors, vous m'expliquiez avant les informations que vous avez 26 ans, vous avez un parcours avec déjà pas mal d'expériences de vie un peu traumatiques, on va dire. Il s'est passé quelques événements, une naissance très tôt, vous étiez un prématuré né à 7 mois.
Oui.
Des accidents, ensuite des deuils qui ont été compliqués, notamment le deuil de votre grand-père qui vous a beaucoup culpabilisé parce que vous n'êtes pas allé le voir alors que vous auriez pu. Mais vous savez que ça, c'est un grand classique aussi, ça ne sert pas à grand-chose de se culpabiliser parce que ça ne change rien. C'est comme ça, vous ne pouvez pas savoir à ce moment-là ce qui allait se passer. Et donc, vous me disiez que tout ça accumulé a fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une sorte d'instabilité permanente, comme si vous n'arriviez pas à être heureux. Et qu'à chaque fois que vous faisiez un pas en avant, il y a quelque chose qui vous a fait un pas en arrière. Allô ? Allô, allô ?
Allô ?
Valentin ?
Oui ?
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, mais j'ai eu un petit souci de... Allô ?
Oui ?
Oui, je vous entends.
Ah, j'avais l'impression que vous n'étiez plus là.
Ah, si, si, non, j'ai eu quand même un petit souci de derrière. Je ne sais pas, il y avait quand même quelque chose.
Donc, je résumais en quelques mots votre histoire, ce que vous m'avez raconté avant les infos. Et globalement, ce qu'il en sort, c'est une espèce de toile de fond d'anxiété et une difficulté vraiment à être stable et à être heureux, comme si à chaque fois que ça allait bien, il y avait une petite voix qui vous disait « ça ne va pas durer, quoi ».
Bah, c'est ça, oui. Je sais pas, j'ai le sentiment en fait, de me sentir en fait, être le seul maître à bord de ma vie. Et qu'en fait, personne sera. Enfin, je veux dire, évidemment, je ne suis pas seul, mais je veux dire que personne ne va décider pour moi, personne ne va faire à ma place. C'est moi qui a les propres commandes à bord. Mmh. Et ça me fait peur, en fait. C'est ça qu'on disait à une époque que. Aujourd'hui, c'est une sorte de la peur de mourir que j'avais à un moment donné. J'ai eu beaucoup d'hypochondrie et de crainte de mourir. Et il m'a dit, c'est la peur de vivre, en fait. C'est ça, enfin, c'est comme un appel à sa mère, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je reste enfant, ou est-ce qu'il faut que j'avance et que je grandisse. Et je crois qu'en fait, le souci a toujours été là. Et je pense qu'il est toujours là et ça, il retoque comme ça de temps en temps. Quand c'est un événement négatif que je perçois certainement comme une petite mort, comme quelque chose, comme une perte, j'ai du mal à accepter les choses de la vie, l'incertitude, le deuil, enfin la perte, c'est comme un, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme un sentiment en fait d'insécurité en fait que j'ai, je sais pas trop comment où aller, quoi faire. Alors j'ai des envies bien sûr, j'ai fait des études de graphisme. mais j'ai pas du tout confiance. Là, actuellement, aujourd'hui, je sais pas, j'aurais envie d'arracher la page et de recommencer tout, de refaire des études, d'apprendre autre chose. J'ai le sentiment d'avoir gâché un peu mes années de maths aussi, de pas avoir fait ce qu'il fallait parce que j'avais certainement, je sais pas, j'avais peur, j'arrêtais pas de me dire que j'y arriverais pas, que c'était pas possible. Et bizarrement, c'est arrivé après le bac, parce qu'avant, j'ai jamais été quelqu'un de feignant. J'ai toujours été motivé, je me suis toujours battu, peut-être plus que les autres, par rapport aux difficultés scolaires et tout, que chacun peut rencontrer aussi, hein. Je suis pas le seul, mais je veux dire que j'avais cette énergie, cette motivation et tout, et aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître, en fait, parce que j'ai appris des choses, j'ai des acquis, des compétences, mais j'ai pas du tout confiance en ça. Pour vous dire, en fait, j'ai appris une partie, tout ce qui est création, tout ça, infographie, graphisme en première année de BTS, donc que j'ai fait quand même 2 ans après mon bac, parce que j'étais complètement... j'étais pas bien du tout, j'avais beaucoup d'angoisse de mort, tout ça, des symptômes somatiques, je pleurais, enfin je restais à la maison, en fait, une bonne partie, je restais couché, et voilà, enfin j'ai eu des expériences à la fac, je me sentais complètement comme un intrus avec les autres et tout, enfin jugé, pointé du doigt, enfin j'étais complètement dans une phobie sociale en même temps, et que du coup ça devenait trop dur, j'ai décidé d'abandonner, de laisser tomber parce que j'étais pas bien, et je me disais que c'était pas possible, enfin que voilà, que j'en avais pas la force. Et encore aujourd'hui, je regrette parce que je me dis que j'aurais peut-être pu faire les choses autrement. Mais maintenant, après, c'est tout, c'est passé. Je peux pas revenir en arrière, mais j'ai fait autre chose. J'avais tenté une fac de psychologie parce que la psychologie m'a toujours intéressée. Et puis en première fois aussi, en gestion des entreprises, commerce, tout ça. Et en fait, les 2 années, en fait, j'ai laissé tomber à un moment donné dans l'année. Et j'ai subi aussi de l'harcèlement un peu moral de la part des autres aussi, surtout en deuxième année, à la fac de psychologie. Parce que j'allais pas trop devant des autres et tout, donc j'étais un peu considéré comme quelqu'un de bizarre. Et c'était jusqu'à des menaces de mort et tout, je n'osais plus sortir de chez moi. J'ai vécu des années hyper très compliquées, très difficiles. Et donc j'ai réussi à remonter la pente grâce à ma grand-mère qui, voilà, je vais faire ça parce que ça me plaît, ça m'a toujours plu. Donc j'ai fait un BTS entre 2014 et 2016 dans une école privée où j'ai pu reprendre un peu confiance, où j'ai pu me sentir en sécurité aussi. Il y avait des formateurs qui étaient là, qui accompagnaient les élèves dans une école privée, quoi, différemment que de la fac où on est un petit peu un individu X, un inconnu, quoi, si je puis dire. Et donc j'ai réussi à avoir mon diplôme, tout ça. Enfin, la première partie, c'est sur tout ce qui est création. Et puis après, en deuxième année, sur toutes ces créations de site internet. Suite à ça, après, j'ai cherché du travail. Je n'ai malheureusement pas trouvé. J'ai décidé j'étais dans une sorte un petit peu pareille de dépression et tout, entre 2016 et 2017. J'ai décidé de reprendre une troisième année d'études. Donc, du coup, cette fois-ci, de pousser la porte, d'aller à Paris et de se rendre sur moi, parce que je doutais aussi de la crainte de prendre les transports, de se retrouver un petit peu vraiment dans l'action. Donc je l'ai fait, j'ai pris les transports, enfin voilà, parce que j'avais aussi j'ai eu une crainte à un moment donné de prendre les transports, parce que à la fac, quand je prenais les transports en commun, on a voulu me voler mon téléphone portable, et c'est vrai que j'en ai gardé un peu aussi un sort de traumatisme, parce que qu'on s'attaque à ma personne physiquement.
Ouais, y a, dans tout ce que vous racontez, Valentin, il y a une notion de sécurité qui revient tout le temps.
Oui.
Vous vous sentez en insécurité sur cette terre, j'ai l'impression.
Je pense que c'est ça, oui.
Alors, vous avez mentionné des psys avec lesquels vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur quoi et qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous avez avancé avec eux?
Ben, j'ai avancé dans le sens où ça m'a permis de me détacher de mes parents, de prendre de l'autonomie, d'avancer dans la vie, de grandir, de faire des projets.
Mais pourtant, vous êtes toujours chez eux, non?
Oui.
Vous n'êtes pas tellement détaché. Hein.
Ben, disons que
je me détache parce que je sors, je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, en leur disant les choses, évidemment, mais disons qu'en même temps, il y a une sorte de, peut-être, je sais pas, je ressens comme une sorte de pulsion en même temps d'aller de l'avant, d'être à l'extérieur, tout ça, de faire des choses que je fais, et à un moment donné, il y a comme si qu'il y avait un refuge, comme si c'était finalement le concours familial qui était sécurisant, et je reviens un peu en arrière, et comme là, en fait, là, avec le travail que j'avais trouvé, je me sentais enfin, je me dis, c'est bon, là, je vais pouvoir essayer de prendre un appartement tout seul, ma mère m'en avait même parlé, mais bizarrement, je me suis dit, alors oui, j'avais envie tout ça, je me dis, oui, je sais que je suis capable de le faire, que je peux, je me débrouille, j'ai mes rendez-vous, mes papiers, tout ça, je suis autonome avec mes comptes, j'ai fait quand même pas mal de chemin quand même depuis toutes ces années, mais ça reste encore compliqué aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui a toujours été, je pense que le point central en fait de cette histoire, c'est le lien que j'ai avec eux en fait, je pense que c'est ça. Alors si vous voulez, pour tout vous dire aussi, j'ai été beaucoup voir une magnétiseuse qui à chaque fois en fait, une situation difficile, elle m'a toujours sorti, je ressortais au bout le jour même, enfin le lendemain, j'avais l'impression qu'elle m'avait retiré, si je peux dire, le mal, en fait.
Le poids.
Qu'elle m'avait retiré le poids et que finalement, je prenais mes esprits et que tout était parti, quoi, comme, un peu comme par magie. Et j'arrivais, c'est comme ça que j'ai réussi à avancer, jusqu'à temps que la roue revienne. Mmh. En fait, comme si que j'ai des schémas comme ça qui se répètent sans arrêt et je me sens prisonnier de moi-même, en fait, comme un enfant perdu au milieu de l'océan. Je sais pas,
On en revient vraiment, vraiment. Là, plus je vous écoute, plus pour moi, c'est en tout cas c'est l'axe sur lequel je travaillerai. C'est ce sentiment d'insécurité. Tout est lié. Chaque situation que vous avez mentionnée avait un rapport avec la sécurité. Et c'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure que peut-être ça vient aussi de cette naissance trop précoce, ce manque de sécurité que vous avez ressenti étant petit. Ces angoisses vécues par papa, par maman, tout ça, ça a pu vous marquer. Et c'est là-dessus que je travaille avec vous. Voyez. Cette notion de sécurité qu'il va falloir retrouver. Parce que c'est ce qui vous empêche de grandir et c'est ce qui vous empêche de prendre votre élan pour vous envoler dans la vie.
Mais c'est ça, oui. Parce que j'ai envie de plein de choses. J'aimerais aller sur Paris ou en Bretagne, faire exercer mon métier là ou autre. Avoir plus d'amis. Là, j'ai une bonne amie. Enfin, voilà, je me suis inscrit dans un groupe de théâtre, ça me fait du bien. Et pendant quelques années, enfin après mes années sabbatiques, après le bac, ça m'a permis de retrouver du lien, de retrouver aussi une sécurité, enfin de désamorcer un petit peu toutes ces inhibitions, ces comportements un petit peu de retrait. Donc j'ai évolué sur ça aussi. Mais aujourd'hui, je j'ai pas mal de choses en fait qui m'occupent, qui me, je rumine pas mal en fait aussi sur tout ça en fait, sur ce que j'ai vécu, sur ce qui va mieux, qu'est-ce qui va mieux depuis tout ce temps-là.
Ne bougez pas trop Valentin parce que je vous perds régulièrement là.
Ah pardon, je vous disais, je me demande un petit peu de ce qui va mieux depuis ces années-là, enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire comme progrès, et puis en même temps là, dernièrement, en fait, j'ai rencontré aussi quelqu'un. C'est vrai que c'est pas non plus très au clair avec l'orientation sexuelle aussi pour moi. Et donc, du coup, c'est un garçon. Mais je pense que la personne, en plus, est un peu pervers narcissique. Parce que j'ai le sentiment, en fait, d'avoir une image négative sans arrêt de moi-même, qui m'est renvoyée. Comme quoi, j'ai un comportement un petit peu des fois immature, que je sais pas prendre toujours des décisions, que j'arrive pas à voir les choses qu'il faut faire, que je percute pas quand on me dit des choses. C'est vrai que je suis un petit peu quelqu'un qui est un peu étourdi aussi.
Soyez très prudent Valentin, parce que vous êtes la proie idéale pour les pervers narcissiques.
Oui, je sais bien.
Allez pas vous mettre dans les pattes de quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est l'opposé de ce dont vous avez besoin.
Et je pense que c'est c'est un petit peu ce qui se produit en fait.
Parce qu'il va savoir faire, il va savoir vous appâter avec un côté probablement rassurant qui va vous faire du bien et puis qui, derrière, il se servira de ça pour vous faire du mal. Et c'est pas le but.
Et voilà, parce que j'ai déjà pas trop confiance non plus en moi. C'est ça, en fait, tout est remis en cause. Quoi, que ce que je dis ou ce que je fais, que je suis trop lent, que je vois pas les choses que je comprends pas les choses, que je comprends pas en fait, que je comprends rien à la vie, enfin que il faut que je sois mis en face des problèmes pour pouvoir les comprendre et puis agir différemment. Enfin, c'est en fait des reproches perpétuels en fait. C'est souvent sur ma façon d'être et de me comporter.
Fuyez ça vraiment. C'est l'opposé de ce qu'il vous faut. Vraiment. Est-ce que vous voyez un thérapeute en ce moment ou pas? Ou c'est fini?
Oui. Alors, je vois un thérapeute. Je suis suivi. Alors, j'ai justement cette personne-là qui m'a conseillé parce qu'apparemment, selon lui, l'hypnose, en fait, ça fait... En tout cas, c'est quelqu'un, je pense, qui est assez rigide, qui est assez dans le contrôle et dans l'organisation, tout ça. Moi, tout ce que je ne suis pas, je suis quelqu'un plutôt d'un très...
Intuitif.
J'aime bien la spontanéité, tout ça. Enfin, je ne suis pas trop organisé. Je suis un peu une fois négligent, enfin voilà, je suis un peu comme ça, bordélique, un peu en retard, enfin, je suis comme ça et voilà, enfin c'est moi je suis un petit peu une sorte de... je suis un peu un rond, lui c'est un carré quoi, donc c'est vrai que ça fait un peu des étincelles et je suis suivi du coup thérapeutiquement donc par quelqu'un par une psychologue, une psychothérapeute qui fait de l'hypnose, voilà, parce que je pense qu'il y a quand même des choses, malgré ce qu'il me dit, il y a peut-être des choses aussi qui sont peut-être vraies. Enfin, le fait que même mon problème de sécurité, le problème de ma relation avec mes parents, le problème de ce que je veux vraiment dans la vie, je ne sais pas, peut-être de la visualisation positive qu'il faudrait que je fasse, je ne sais pas. Enfin, les traumatismes aussi, peut-être qu'il y aurait...
Je pense que la visualisation, ça sera vraiment la dernière étape de la pyramide pour moi. Il y a vraiment un travail à faire sur tout ce qui concerne votre place dans la vie. Et ce sentiment d'insécurité permanent qui vous accompagne, quoi que vous fassiez et où vous soyez. Pour moi, ce sont vraiment les deux axes. Il y a des deuils à faire. Il y a plusieurs deuils à faire. Il y a plusieurs traumatismes, effectivement, sur les accidents que vous avez mentionnés tout à l'heure. C'est une sorte de grand nettoyage, vous voyez, par étapes, par couches successives.
Mais c'est vrai que je ne sais pas comment faire. Et en même temps, on a fait de l'hypnose, ça m'a fait du bien. J'ai réussi à être un peu plus, parce que je suis un petit peu, je pense, d'avoir des troubles de l'attention. Concentré tout ça, donc je ne suis pas très organisé, très rapide. Donc au travail, il a fallu que je mette des bouchées doubles pour pouvoir être rentable, me dépêcher, faire en sorte que, voilà, enfin, ce que lui me dit, hein, que tout ce que, voilà, la façon dont je me dis, enfin, que voilà, que c'est important pour l'entreprise, qu'il faut un minimum de bon sens et de logique pour avancer, qu'il faut être organisé, qu'il faut se dépêcher quand il faut savoir se dépêcher, tout ce que je ne sais pas et ce que je ne suis pas. Donc ça me remet perpétuellement en question, en disant qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qu'il faut que je ne change pas. C'est quoi quelqu'un d'adulte, de mature, de finalement, voilà, parce que je pense que j'ai quand même fait du chemin, je suis quand même plus, enfin, autonome, j'ai gagné en maturité quand même, mine de rien, même si je suis toujours un petit peu dans cet entre-deux, entre l'adolescence et l'âge adulte. Et donc voilà, ça, c'est vrai que c'est assez compliqué comme situation, et puis en même temps, il y a la crainte de ne pas pouvoir vivre ma vie pleinement, de faire ce que j'ai envie de faire, de ne pas être seule, d'être abandonnée, de ne pas... finalement de ne pas être heureux, alors peut-être que je m'empêche aussi, je sais pas, je n'ai pas confiance en moi, j'ai du mal un petit peu aussi à m'affirmer, à prendre des décisions en général dans la vie, et voilà, mais je pense que oui, c'est un peu, ça tourne toujours un petit peu autour de cette incertitude, de cette insécurité. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des périodes où comme si les ménages se dissipaient et que tout allait, que d'un seul coup je me disais, je suis guérie, ça va mieux, j'avance, je fais des choses.
Ça me paraît compliqué d'être guéri si vous n'allez pas vous soigner vraiment au bon endroit.
Si vous
ne cicatrisez pas les bonnes blessures, elles vont toujours se rouvrir. Bah, si cette thérapeute pratique l'hypnose, attention, parce que beaucoup de thérapeutes rajoutent l'hypnose dans leur boîte à outils, mais ils ont fait une semaine de formation et ils vous font faire un peu de visualisation positive. Ce qui ne vous aidera pas beaucoup dans ce cas-là, si vous voulez. L'hypnose, c'est pas simplement être capable de mettre quelqu'un en relaxation et lui faire voir des belles images. C'est pas le cas. Si vraiment elle maîtrise l'hypnose, demandez-lui qu'elle vous fasse un peu de régression.
Hypnose, de comment, excusez-moi ?
De régression en hypnose.
D'accord.
D'aller travailler un petit peu sur des émotions passées qui sont coincées.
Parce que là, dernièrement, c'est vrai qu'à chaque fois... Elle me dit qu'il n'y a pas que l'hypnose, que c'est pas magique. Alors oui, je pense que c'est effectivement que ça puisse des ressources. Mais en tout cas, quand elle m'en a fait, l'année dernière, je suis sortie de ma dépression. J'y suis sortie grâce à... Enfin, j'ai pas été voir la magnétiseuse parce que je me suis dit, je veux que ça vienne de moi-même et que peut-être que l'hypnose, justement, je me suis dit, je vais essayer parce que là, j'ai l'impression d'avoir essayé pas mal de choses et que rien ne fonctionne et que j'aimerais bien avancer beaucoup. Enfin, j'aimerais bien avancer dans la vie de manière plus rapide. Et donc, sous ses conseils, donc, du coup, à mon compagnon, en fait, de faire ça. Mais c'est vrai qu'elle n'en fait pas tout le temps. Et lui, en fait, sa thérapeute en fait systématiquement à chaque séance, sans objectif. En fait, elle arrive à cerner où est le problème et elle le met en hypnose au bout de 10 à 15 minutes après l'avoir parlé de faire une anamnèse. Et en fait, je ne retrouve pas ça chez elle. Alors après, je sais pas que chaque thérapeute a sa façon de faire.
Bah, c'est ça que je vous explique, c'est que malheureusement, souvent, des thérapeutes qui ont compris que l'hypnose est en vogue et marche bien font une formation qui dure 8 à 10 jours. Ils intègrent ça, mais ils s'en servent uniquement pour... Pour moi, c'est de la décontraction, ce n'est pas un travail d'hypnose profond, ce n'est pas une thérapie par l'hypnose. C'est un accompagnement au mieux-être, si vous voulez. Ça ne va pas creuser, ça ne va pas vraiment chercher profondément.
Parce qu'elle m'a fait des exercices sur la maison intérieure, un petit peu sur ce que je voulais, dans la vie, sur la conscience, sur le lien un petit peu avec mes parents. Enfin, elle a quand même traité des différentes problématiques. Mais je ne sais pas, on fait une fois comme ça et tout. Et encore la dernière fois, je lui dis, j'étais la voir. Au bout d'un moment, je lui dis, est-ce qu'on peut faire de l'hypnose? Je lui ai déjà fait comprendre. En plus, enfin, je veux dire, je ne sais pas quand on vient, quand on en demande, quand on paye. Je sais pas, après, dans ce cas-là, si elle ne veut pas, enfin, qu'elle me le dise, mais je sais pas, je ne veux pas me fâcher, enfin, peut-être que je m'affirme, que je lui dise.
Ne bougez pas trop, madame, Valentin, j'ai du mal à vous comprendre, là. On perd un mot sur deux.
Ah, excusez-moi. Excusez-moi, madame, mais, je sais pas comment lui faire comprendre, en fait, que c'est ça, en fait, qui va me faire avancer, parce que parler, j'en ai fait pendant 7-8 ans, déjà, de la thérapie par la parole, Et ça m'a aidé, hein, je ne dis pas, hein, ça m'a quand même aidé à avancer tout ça.
Mais l'un, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il n'y a pas d'opposition, c'est très complémentaire.
Ben oui, c'est ça, mais j'ai le sentiment que, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je me rapproche de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que c'est difficile de choisir une personne, de choisir un thérapeute qui peut... Je sais pas si beaucoup. Alors je me suis dit après, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille voir plutôt voir quelqu'un carrément, un hypnothérapeute à part, et voir un psychologue à l'autre côté, je sais pas.
Pourquoi pas? Une fois de plus, vous êtes la seule personne au monde, la personne qui est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas de compte à rendre à un thérapeute, si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de changer de façon de faire, et de changer de personne, ou de la garder et d'aller voir quelqu'un d'autre en plus. Ce qui compte, c'est que vous trouviez quelqu'un qui vous aide à aller mieux.
Oui.
Et si vous sentez que ce n'est pas le cas, je ne vois pas bien l'intérêt de continuer, en tout cas pas comme ça.
Bah, ça m'aide, mais c'est vrai que ce n'est pas, comme je le voudrais. Enfin,
ce n'est pas ce que vous cherchez en tout cas en ce moment.
Ben non, mais je pense que j'ai vu les effets, je pense que je pourrais guérir avec l'hypnose. Hein, je ne sais pas après ce que vous en pensez, hein, mais après il y a vraiment différents axes à travailler, différentes perceptions à modifier, certainement au niveau de l'inconscient, peut-être.
J'ai l'impression, en vous écoutant, que vous n'êtes pas allé très loin, en tout cas avec l'hypnose, et qu'on peut aller beaucoup plus loin.
Elle en fait, mais pas de manière systématique, et puis c'est pas des longues séances, et puis c'est pas non plus... J'ai l'impression que ça travaille pas en profondeur, je pense.
Dans ces cas-là, gardez-la si vous avez envie de la garder comme psy classique. Et puis allez chercher un hypno qui connaît son métier, qui fait des séances profondes, et peut-être justement en hypnose régressive, pardon. Pour aller voir un petit peu tous ces nœuds qui se sont passés dans l'enfance. Et une fois de plus, il y a un vrai travail sur de trauma, sur les accidents que vous avez mentionnés tout à l'heure, qui ont l'air d'être encore bien présents dans votre esprit.
Ben disons que là, en fait, apparemment, j'y pense plus du tout. Mais c'est quand c'est quelque chose qui m'arrive comme ça, comme le licenciement, en fait, où je me dis, ben voilà, oui, j'ai grandi, j'ai fait ci, j'ai trouvé des amis, j'ai fait ça, j'ai réussi à avancer quand même, à mettre un peu quand même dans une relation, d'avancer. Mais finalement, c'est comme si, comme une claque, comme une vague qui me revenait en pleine figure, en fait, à chaque fois. J'aperçois les choses comme la fin, comme si qu'après ça, ben voilà, c'est terminé. Et puis ben après, qu'est-ce qu'il va y avoir, en fait? C'est le vide, en fait, le sentiment de crainte du vide, du néant, en fait, certainement aussi, du rien derrière, et de me dire que c'est moi seul qui va mettre des choses en place. Et c'est vrai que là, professionnellement parlant, c'est difficile, parce que je vois l'âge qu'avance. Donc je me dis que dans 4 ans, je vais avoir 30 ans, et ça, j'ai peur, parce que j'ai envie de partir de chez mes parents, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie d'être heureux dans un couple, j'ai envie d'avoir des amis, de faire des sorties, de profiter beaucoup plus de la vie que ce que je le fais là. Je ne dis pas qu'après, je profite quand même, hein, dans les périodes où ça va bien, bah, j'avance. Mais,
mais quand la vague arrive, elle vous ramène en arrière systématiquement, quoi.
Ben, j'ai le sentiment, oui, que ça revient. C'est comme une boîte de musique, en fait, comme si il y avait quelque chose qui comme si il y a quelque chose qui ne doit pas passer au niveau de la, je sais pas, dans ma tête, je sais pas, au niveau de la, je sais pas, je comprends pas. J'avais pensé avoir réussi à me détacher un petit peu de cette sécurité familiale, même si je suis toujours chez eux parce que j'ai pas de travail. Et finalement, je me rends compte qu'il y a quand même, je pense qu'il y a quand même, ça, parce que quand je vois les gens autour de moi, des anciens amis de primaire qui se marient, tout ça, qui avancent, qui ont leur formation, qui sont au stade, qui ont un travail, tout ça, et moi je me dis, ben moi, j'ai rien de tout ça, c'est compliqué. Et quand je vois des photos de moi avec 4-5 ans chez ma grand-mère et tout, je me mets à pleurer parce que je me dis, si j'avais su qu'elle allait être si compliquée que ça, après, elle est difficile, ça m'émeut parce que je me dis.
Je vous perds, Valentin.
Je voudrais quand même être soignée, enfin. Je ne sais pas si c'est mon enfant intérieur qui parle ou qui voudrait être apaisé. Ou...
Bah, il me semble que c'est très clair, que c'est vraiment ça le souci. Hein. Vous l'avez compris, cette sensibilité, c'est l'enfant intérieur qui est en panique.
Oui, c'est ça, je pense que ce que je ressens en ce moment, c'est un peu ça, parce que j'ai presque envie de... J'aimerais bien pratiquer, j'ai plus du tout confiance en ce que j'ai appris en termes de création de site et tout ça, et je me dis, bah, c'est tout, pour pallier à ça, je ne peux pas rester comme ça, bah, je vais laisser tomber, je vais abandonner et je vais faire autre chose. Je vais, là, malheureusement, la rentrée, elle est passée, donc ça me stresse encore plus, parce que je me dis, l'année prochaine, j'aurai 27 ans, et comment c'est dans les 3-4 ans que ça se joue, il faut que j'arrive à trouver, je ne sais pas, peut-être simplement manque de confiance ou un manque de persuasion. Un petit peu comme le jeune homme peut-être d'avant aussi, hein. J'ai écouté le témoignage qui est
de Mathieu.
Oui. C'est vrai que je me retrouve un petit peu dans ça, en fait. Je me sabote moi-même parce que j'avais pas ce problème-là avant le bac, et là, depuis, en fait, je perds pied, en fait, parce que je pense que ça symbolise peut-être la crainte d'avancer dans la vie, de s'ancrer dans la vie, d'être adulte une bonne fois pour toutes, de construire des choses. Je pense que le problème est là, il a toujours été là, et je pensais en être guéri. Et finalement.
Et je pense que vous passez beaucoup de temps à courir d'un côté pour construire l'avenir et de l'autre pour réparer le passé.
Oui, c'est un peu entre les.
Et du coup, vous vous perdez entre les deux. L'avenir, vous n'arrivez pas à le construire, et le passé, pour l'instant, il n'est pas réparé.
Et du coup, je suis dans le présent, mais je. En fait, c'est ça, je pense à l'avenir. Ce que la psychologue me disait, je pense au passé douloureux, à l'avenir que j'anticipe négativement, et du coup, j'en oublie le présent, le moment actuel, le présent, et ce que je peux faire pour remédier pour y arriver, quoi.
Et surtout, quand on veut arriver à prendre un bel élan pour l'avenir, il faut que le présent soit stable. Et pour que le présent soit stable, il faut aller réparer le passé. Mais vraiment, il ne s'agit pas de faire 5 minutes de relaxation avec quelques images positives, il s'agit vraiment d'aller travailler sur ce problème de sécurité, de place, sur ces deuils qui ne sont pas faits, et vous permettre à cet enfant intérieur de grandir suffisamment pour qu'il se sente prêt à devenir un homme et à se lancer dans la vie, tout simplement.
Mais ce qui est bizarre, c'est que la même chose, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, enfin, le sentait en fait au niveau des appositions énergétiques, elle m'a dit, le problème, c'est que tu as peur de grandir, et elle m'a dit, tant que tu ne te verras pas comme un homme dans la glace, bah, tu ne t'aimeras pas.
Mais oui.
Elle m'a toujours dit ça, en fait.
Le problème, c'est quand on vous dit ça, c'est bien. Mais après, qu'est-ce que vous en faites ? Une fois qu'on vous dit « tu as peur de grandir », ça, je pense que vous l'avez bien compris, que vous avez peur de grandir. C'est une évidence dans chacun de vos propos. Mais ok, c'est là que ça commence à être intéressant. C'est qu'est-ce que je fais de cette information-là ?
Mais c'est ça, je ne sais pas comment...
Eh bien, je vais travailler sur l'enfant intérieur et je vais le consoler, je vais soigner ses blessures, je vais faire mes deuils et je vais m'autoriser à grandir. En toute sécurité, pour oser prendre ma place.
Ouais, je pense que c'est ça un petit peu le. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Après, c'est vrai qu'il y a des petites choses à droite à gauche comme ça.
Après, ce sont des conséquences, mais là, on parle de la cause. Et quand on veut vraiment se libérer des conséquences, il faut d'abord travailler sur la cause. Et j'ai l'impression que cette femme dont vous me parlez là, qui fait de la médecine énergétique, c'est ça ?
Oui.
Elle vous cerne bien et vous vous sentez bien avec elle, donc c'est important aussi.
Mais c'est ça, alors après, quand je ne suis pas bien, j'y vais une fois, et ça m'aide, mais je sais pas, après, il faudrait que je continue sur plusieurs séances. Je sais pas si au niveau du magnétisme, on peut réussir à guérir les... intérieurement.
Honnêtement, je crois pas. Je pense que ça rééquilibre beaucoup de choses, mais on va pas faire une thérapie avec ça non plus. Par contre, demandez-lui si elle connaît pas un bon hypnothérapeute, par exemple.
D'accord.
Je pense qu'elle doit, dans son entourage, avoir quelqu'un qui est capable de vous accompagner sur ce chemin-là. D'accord, Valentin ?
Oui, d'accord. Mais c'est vrai que là, ce qui m'inquiète un petit peu actuellement, surtout, c'est au niveau du travail. En fait, j'aimerais bien reprendre mes acquis, tout ça, essayer de m'entraîner, mais je me dis que je vais pas y arriver. Enfin, je sais pas, je me dis que j'y arriverai pas, et du coup, je sais pas trop quoi faire. La psychologue, elle me dit d'essayer d'apprendre d'autres choses. Peut-être que ça va peut-être pouvoir me rassurer et me permettre de désangoisser un petit peu. Mais je sais pas, je me dis, est-ce que c'est de l'évitement ou est-ce que c'est vraiment, peut-être que je suis pas du tout à l'aise sur ce que j'ai appris et que peut-être c'est peut-être pas fait pour moi et que j'ai l'impression de pas avoir la réponse, en fait. Je sais pas la cause, je sais pas si c'est une fuite en avant, si c'est de l'évitement, de vouloir chercher à faire autre chose et à laisser tomber, ou si c'est parce que vraiment, je me dis, peut-être que j'ai des limites aussi et que c'est pas possible que, enfin, je me dis peut-être que je ne peux pas faire ça et que, il faut que je change, mais je n'arrive pas à trouver la réponse. En
fait, Valentin, je n'aurais pas la réponse à toutes ces questions existentielles d'un coup. On va s'arrêter là. Réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit. Et dites-vous qu'il faut d'abord aller chercher du côté de la cause avant de penser à toutes les conséquences. Et je suis sûre que ce petit garçon, quand vous l'aurez pris par la main, que vous aurez fait le travail qu'il faut avec lui, il va grandir et vous allez pouvoir prendre un bel élan. Vous allez voir dans plein de domaines.
D'accord.
Hein ?
Oui.
Allez, je vous embrasse.
Merci beaucoup, Sabine.
Avec plaisir. Au revoir, Valentin.
Merci, au revoir.
Et en réponse à ma question du jour qui était « Avec qui aimeriez-vous aller prendre un café ?» Morgane nous répond « M'asseoir 5 minutes, prendre un café avec Renaud et lui raconter qu'il faut aimer la vie même si le temps est assassin. » C'est un très joli clin d'œil. Merci, Morgane. Et j'accueille Julie maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Julie.
Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai plusieurs petites choses et j'ai aussi trouvé des similitudes dans ce que le jeune homme a dit tout à l'heure. Moi, je suis bipolaire, j'ai été déclarée bipolaire. Et j'ai subi un gros choc émotionnel puisque j'ai fait une dépression postpartum. Et on m'a enlevé mon enfant. Le père m'a enlevé mon enfant à la naissance. Et après, il me l'a placé à la DAS et il a fallu que je me batte pour le récupérer.
Oula, effectivement, oui. Et pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Vous étiez en conflit avec lui ?
Parce que, comment ?
Vous étiez en conflit avec lui ?
Bah, parce que, oui, je m'étais rendu compte de plusieurs choses, que ça n'irait pas, et je savais quasiment depuis le début que je me retrouverais toute seule. Parce que j'avais découvert quelqu'un qui buvait, qui était drogué, donc je pense pas que j'aurais été heureuse. Et vu ce qui s'est passé après avec mon fils, quand il me l'a emmené, il a été placé à la DAS parce qu'il était en anémie et tout ça. Donc j'ai vécu un procès qui a duré 9 ans. Ça a été très long et j'arrive pas. En fait, j'ai mon fils maintenant, il a 20 ans. Ça fait 20 ans que je l'élève toute seule, mais j'ai beaucoup de mal parce que comme je suis bipolaire, je suis suivie par un psychothérapeute depuis le début quasiment qui m'avait dit que, enfin voilà, que c'était des gens pas bien. J'ai fait confiance au père parce que comme j'étais pas bien, je me suis dit je vais être mieux après. Et du coup, il va être placé et il va être chez son père en attendant, mais ça s'est pas bien passé. Et du coup, j'arrive pas à zapper mon passé de ma tête. Par moment, ça va. Mais par moments, j'ai beaucoup de mal. Et déjà, j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi et déjà dans la nature humaine en règle générale.
Vous l'avez récupéré à quel âge, votre fils ?
Il avait 15 mois.
Ah, d'accord. Ouais.
Ouais.
Bon, et vous en êtes malgré la maladie, vous en êtes quand même bien sortie comme maman. Comment va-t-il aujourd'hui, lui ?
Bah lui, il va bien, mais moi, il s'est passé des choses dans ma vie. J'ai perdu mon papa il y a 4 ans, j'arrive pas à m'en remettre. Et c'est ce que lui dit. Il dit, toi, tu l'as connu longtemps, moi, le mien, je le connais pas. Mm. Donc c'est difficile parce qu'il a 20 ans, il est pas mûr, il est pas mature. Il a été beaucoup protégé par ma maman, qui le protège encore beaucoup. Et je suis pas sûre que ce soit forcément bien ce qu'on fasse. Et du coup, il a quitté la maison. Il est parti faire ses études. Mais j'ai toujours ce manque de confiance en moi. J'ai l'impression, j'ai pas refait ma vie parce que j'ai pas voulu le traumatiser plus qu'il avait été déjà. Mmh. Donc j'ai pas voulu refaire ma vie avec quelqu'un parce que j'ai pas confiance déjà dans les hommes en règle générale. Après ce qu'on m'a fait, je pense que c'est compréhensif. Mais malgré tout, mon psychothérapeute, des fois, il me dit qu'il faut que je retrouve quelqu'un. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Moi, ce que je veux, c'est que mon gars soit bien. Le reste, je m'en fous. Moi, je passe après, c'est pas grave. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi je remue toujours ce passé. Parce que j'ai un lourd passé, quand même.
Bah, la réponse est dans la question, Julie. Vous avez un lourd passé. Il est encore tellement lourd que vous le portez sur vos épaules.
Ouais. Et je sais pas, mon psy, ça fait trop longtemps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça faisait trop longtemps que je le voyais et qu'il fallait que j'envoie un autre. Mais j'ai pas envie de recommencer mon histoire. Ça servira à rien. Il faut avancer. Mais j'arrive pas. Des fois, j'ai un blocage au niveau. Et puis psychologiquement, j'ai été démolie. Et je suis tombée sur des gens qui étaient très puissants, qui avaient très puissants à tous les niveaux, et enfin, ils m'ont démoli, ils ont démoli ma vie, quoi.
Ça fait combien de temps que vous le voyez, ce psy ?
Ça fait 20 ans.
Ah oui ?
Ouais.
Mais vous savez, vous n'êtes pas forcément obligé avec un autre psy de recommencer toute l'histoire à zéro, il peut aussi vous prendre là où vous en êtes et avancer par étapes, et les choses remonteront comme elles doivent remonter. Faut pas vous bloquer tout de suite en vous disant « Oh là là, j'ai pas envie de tout raconter à nouveau ». Ça peut se faire aussi simplement, naturellement.
Mais le problème, c'est qu'à travers moi, j'ai l'impression que j'ai fragilisé mon garçon.
Alors ça, je vous rassure, toutes les mamans du monde disent la même chose. On fait ce qu'on peut, on fait notre mieux. Et bien sûr, nos blessures leur font du mal à eux aussi, mais on ne fait pas exprès, c'est la vie qui est comme ça. Il n'a pas l'air d'aller si mal que ça, votre fils, quand même, d'après ce que vous me dites. Qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie, lui ?
Bah, il veut travailler dans le commerce.
Bon, et il fait quoi pour ça ? Il se prépare ? Il fait une école ?
Là, il fait une prépa.
Bah, c'est drôlement bien.
Ouais, ouais.
Donc, vous avez fait du bon boulot, quand même. Vous pouvez être fière de vous, non ?
Bah oui, mais j'ai un mal-être. Je ne suis pas bien, quand même. Et puis, depuis que j'ai perdu mon papa, j'ai plongé... Je pense que j'ai plongé, je suis tombée tellement bas que j'arrive pas trop à me relever. Et j'ai continué à voir mon psy à cause de ça. Et il m'a dit, votre papa, il était vieux. Bah oui, mais mon papa, il était peut-être vieux, mais il y a d'autres personnes qui sont âgées et qui sont encore là.
Oui, puis ça vous aide pas tellement de vous dire des choses pareilles. Hein. Je vois pas tellement l'intérêt.
Non, pas vraiment, non.
Au niveau de votre bipolarité, est-ce que vous avez un traitement qui fonctionne ?
Je sais pas parce que déjà quand ça a été compliqué quand j'étais enceinte parce que en fait déjà quand j'étais enceinte je m'étais inventé des histoires, j'avais dit au psy que j'avais couché avec personne et que j'étais enceinte.
Oui.
Donc il s'est dit il y a un problème.
Oui, on a déjà entendu une histoire comme ça, mais enfin bon, oui.
Ouais, c'est parce que j'avais peur de ma mère, en fait.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 30 ans.
Ah oui, effectivement. Ouais.
Mais ma mère a toujours eu une emprise sur moi, et elle l'a encore, et elle l'a sur moi et mon fils. Elle l'a élevé quasiment elle l'a élevé et des fois elle me dit il a pas eu son père. Il a essayé de le recontacter il y a pas très longtemps et son père lui a répondu que 20 ans après ça risquerait de traumatiser sa famille s'il allait le voir.
Oui. Est-ce qu'il en parle beaucoup, votre fils? Est-ce qu'il sent le besoin d'évacuer ça, de mettre des mots là-dessus, ou au contraire il s'en fiche?
Je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas parce que comme il parle beaucoup à ma maman, pas beaucoup à moi par rapport à ça. Il n'en parle pas beaucoup.
Ben peut-être pouvez-vous lui demander simplement comment il sent par rapport à ce père absent et qu'il rejette encore une fois. Demandez-lui ouais. s'il a besoin d'en parler.
Ouais, je sais pas trop, c'est compliqué.
Qu'est-ce qui est compliqué?
Ce qui est compliqué, c'est que le psy, il m'a toujours dit que dans notre famille, il y avait un problème de séparation.
Et justement, en quoi ça vous empêche de parler à votre fils?
On n'arrive pas à se parler, en fait. Parce qu'il supporte pas mon état.
Qu'est-ce qu'il vous dit?
Il me dit que je suis bipolaire, que je suis malade. On lui a toujours dit ça, alors lui, il croit que sa mère, elle est malade.
Ce qui est vrai, et alors, ça n'empêche pas, vous avez une maladie, mais ça n'est pas, vous n'êtes pas que la maladie, vous êtes aussi sa maman.
Oui.
Ça, c'est à vous de le recadrer aussi. Vous pouvez lui dire, ok, mon grand, je suis malade. Et alors, j'ai une maladie, mais je suis aussi ta mère.
Ouais.
La maladie, ça ne définit pas tout ce que vous êtes. C'est juste quelque chose en plus.
Des fois, je me dis que c'est pas. J'ai fait des bêtises et des fois, dans ma famille, ma maman, par exemple, j'étais partie en Angleterre quand j'étais jeune et elle a été lui raconter tout ce que j'avais fait avant. Mais je trouve qu'elle n'avait pas à lui dire ça. Ça, c'était mon passé d'avant. J'avais pas d'enfant à cette époque-là. Ça le regardait pas.
Non,
elle n'avait pas besoin de lui dire tout ça.
Non, c'est très indélicat, je trouve.
Alors du coup, lui, il veut voyager et tout. Il se dit, le voyage, c'est bien. Mais c'est pas ça, la vie. C'est la vraie vie, c'est pas ça. Et moi, je sais plus. En fait, elle a pris ma place, ma mère. Elle dit que non. Mais si, c'est vrai, elle a pris ma place. Elle l'a gardé beaucoup petit, elle s'en est occupée beaucoup parce que j'étais pas capable. Il disait que j'étais pas capable de m'en occuper et parce que j'étais malade. J'ai été malade. De toute façon, comment voulez-vous ne pas être malade quand vous vous retrouvez enceinte et que le père, vous découvrez qu'il est alcoolique et tout ça, et que vous dites, je vais me retrouver toute seule avec un enfant? C'est pas possible. Mais même au jour d'aujourd'hui, alors que je vous parle, je me demande comment je pourrais encore être en vie. Avec tout ce que j'ai subi, c'est même pas possible, quoi.
La preuve que si, la preuve que vous avez cette force-là, quand même. Vous êtes toujours là, hein?
Le problème, c'est que je vieillis et je suis fatiguée.
Oui.
Des fois, hier, j'ai regardé une émission à la télé, ils avaient 12 enfants, les gens. Je dis, moi, j'en ai 15, je n'aime pas.
Mais bon, comparons ce qui est comparable, hein. C'est pas...
Oui.
Non, ce qui m'ennuie un petit peu dans votre histoire, c'est cette dépendance à maman, là, que je sens très forte.
Elle me gère, elle me dit tout ce qu'il faut faire, elle me dit... Elle a toujours été comme ça. J'ai une sœur, c'est différent parce qu'elle est mariée, donc elle ne s'immisce pas trop dans la vie de ma sœur avec son mari.
Elle
mais
ose
comme
pas,
moi, je suis toute seule et que je n'ai pas de mari, elle s'immisce... Quelque part, je l'ai peut-être un peu laissé trop faire. Et puis maintenant, j'arrive plus à faire marche arrière.
À faire marche arrière. Est-ce qu'elle ne s'est pas servie aussi un petit peu de la maladie pour en profiter?
Oui, parce qu'elle a un ascendant plus fort que moi.
Et oui, c'est ça. C'est facile aussi de vous dire que tu n'es pas capable de faire ça, donc c'est moi qui fais. Quoi.
Ouais.
Et pourtant, ça vous ferait du bien, j'ai l'impression, d'arriver à la mettre un peu à une bonne distance.
Déjà, j'ai déménagé par rapport au travail. Je me suis retrouvée plus loin, mais ça a été compliqué. Mon fils, on lui a fait du mal quand il était petit à l'école et tout ça. Il avait des petits bouts de bois dans ses chaussures et puis l'école, il a porté plainte parce qu'ils ont dit qu'il allait faire du mal aux autres enfants, mais c'était pour jouer qu'il avait fait ça. De toute façon, depuis que j'ai déménagé où j'habite, j'ai eu que des problèmes. Alors, je ne sais pas s'il fallait que je déménage. J'en sais rien.
Là, vous êtes à quelle distance de votre mère?
Une demi-heure.
Oui, donc c'est pas très loin.
Non, 35 minutes. En respectant la limitation, 35 minutes.
Et votre fils, il vit où?
Eh bien, il vivait chez elle. Et là, maintenant, il est chez une dame, chez l'habitant. Et il vit chez quelqu'un constamment. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, en fait, il m'en veut à moi, puisqu'il a que moi. Et il m'en veut d'être malade. Il m'en veut d'avoir eu un enfant qui n'a pas de père. Il m'en veut. Mais on lui a tellement dit que son père, il n'était pas bien et tout ça. Mais en fait, c'est lui, il a trinqué dans l'affaire. C'était notre histoire à nous. Mais c'était son père, moi, je ne savais pas qu'il allait faire tout ce mal-là.
Bien sûr. Bien sûr.
Je suis passée à l'émission Julien Courbet pour le récupérer, mon enfant.
Oui.
Mais ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée parce qu'il a fallu que je raconte ma vie. Je ne sais pas comment elles font les stars. Moi, je ne peux pas. Et ça m'a traumatisée. Et après, j'ai eu des retombées au travail. On m'a dit oui, mon enfant, il n'a jamais été à la DAS. Moi, j'en ai pris plein la tête, quoi.
Oui.
Et maintenant, je ne supporte plus le regard des gens. Le fait d'être passée à la télé, j'ai l'impression que tout le monde me reconnaît, alors que c'est dans ma tête. Hein, personne ne me reconnaît. Je ne suis pas passée assez longtemps. Mais je devrais être heureuse qu'il réussisse ici à l'école et tout ça. Il a repris des études. Mais j'ai tellement plus confiance, même dans mon propre fils, parce qu'il m'a écartée, en fait, de sa vie.
Ouais. Bah oui, mais je pense que c'est vraiment important de lui parler. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de lui dire que vous n'êtes pas qu'une maladie et que vous avez fait de votre mieux et que c'est pas juste son comportement. C'est pas juste la manière dont il vous parle et dont il vous considère. Comme vous disiez, vous ne pouvez pas savoir quand vous avez fait un enfant que ça allait se passer si mal avec le père. C'est pas de votre faute tout ça.
Bah, je suis pas responsable de tout, non.
C'est pour ça, vous vous en mettez beaucoup sur les épaules.
Bah, parce qu'on m'a chargé lourdement aussi. Hein. On sait pas.
Bah, c'est
on
ça.
Sait
hein.
pas, on sait pas. Attendez, moi, quand j'étais à Marseille, parce qu'il était à Marseille, mon enfant, et je me suis déplacée, je sais pas combien de fois pour aller le chercher et tout, parce qu'il était à l'hôpital et tout ça, et il a fallu que j'aille le voir. Mais je vous assure, mais même à la télé, il y a des fois, il y a même pas des trucs comme ça, quoi. Non, ça a été violent. Et puis la partie adverse, il y en a un dans l'affaire qui était ancien commandant d'armée en retraite et puis que sa femme, elle était ex-maire de Marseille et tout ça. Donc nous, comme on était ouvriers, bah, ils en ont profité. Ils sont venus voir mes parents, ils ont dit il sera mieux élevé chez nous que chez vous, l'enfant. Ah bah, il a été mieux élevé, c'est sûr, il a été à la DAS.
Oui. Oui, j'entends, Julie, qu'il y a beaucoup de traumatismes dans votre histoire. L'émission ne va pas tarder à se terminer. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait que vous ayez un thérapeute qui vous fasse du bien, plus que ça. Là, j'ai l'impression que vous êtes tombée dans une espèce de routine avec lui.
Ouais.
Et que ça n'avance plus.
Bah non, ça avance plus.
Et vous avez vraiment besoin que ça avance, là, maintenant.
Je sais qu'il n'y a que moi qui peux faire quelque chose, mais je n'ai plus la force.
Il n'y a que vous en vous faisant aider. Justement, quand on n'a plus la force comme ça, il faut trouver la bonne personne qui vous aide à avancer, qui vous prend par la main un petit peu. C'est ça dont vous avez besoin en ce moment. De ne pas être seul.
Ouais.
Et peut-être vous pouvez lui dire, votre thérapeute, lui dire, voilà, écoutez, 20 ans, c'est bien, mais je pense que là, on est un peu sur une routine. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me booste un peu plus, qui me permette d'aller chercher dans des territoires où on n'est peut-être pas encore allé.
Ouais.
Non. Vous libérez de ce gros sac à dos que vous portez depuis tellement longtemps.
Ouais, c'est clair.
Et le laisser un peu par terre pour vous rendre compte qu'on peut avancer de manière plus légère dans la vie aussi.
Il y a des gens pour qui tout roule, mais moi, c'est pas le cas.
Oui, je sais bien. J'entends ça, Julie.
Mais je sais qu'il y a des gens qui ont encore plus de problèmes. Mais...
Oh, ça, de manière générale, ça ne nous console pas.
Non.
Et puis, ce n'est pas en fonction des autres qu'on construit sa vie, c'est en fonction de soi. C'est ça le plus important.
Mais j'ai essayé de rencontrer quelqu'un, mais ça ne marche pas.
Bah, c'est normal, vous n'êtes pas bien avec vous-même en ce moment, donc c'est un peu logique.
Ouais.
Essayez d'aller frapper chez un autre thérapeute.
D'accord.
D'aller ouvrir d'autres portes avec d'autres rencontres qui pourraient vous faire avancer différemment et quelqu'un qui vous prenne bien par la main en ce moment pour vous permettre de faire des pas en avant positifs.
D'accord, ok, je vous remercie.
Et soyez fiers déjà de tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez surmonté, Julie.
Ouais, c'est gentil, je vous remercie beaucoup.
Je vous embrasse.
Merci, moi aussi, au revoir.
Prenez soin de vous. Au revoir, Julie. Et vous reconnaissez le générique de fin, notre émission se termine en douceur. Merci à tous d'avoir été là, merci pour vos nombreux SMS aussi. Merci d'avoir joué le jeu pour la question qui me permet de mieux vous connaître. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h pour de nouveaux échanges. D'ici là, je vous quitte avec la phrase du jour. Le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Passez une bonne nuit et à demain.